Vous écoutez Timbre FM sur le 106.6. C'est l'heure du feuilleton de l'économie locale.
Qu'est-ce que l'économie locale ?
L'économie locale, ça représente l'énergie qu'on peut trouver sur un territoire.
Qu'est-ce que tu entends par énergie ?
Des sujets qui concernent, par exemple, pour le pays de Plouermel, la ruralité dans son sens large, parce que dans un milieu rural, et plus concrètement, sur l'accès au foncier pour les paysans, ça va être la valorisation du bois au niveau local, ça va être des questions d'habitat participatif et du vieillissement.
Et toi, tu fais quoi dans l'économie locale ?
Je travaille pour la dynamique essentielle Plouermel, qui s'est lancée en 2013, et j'essaye justement de mettre en valeur cette petite économie locale qui s'active tous les jours pour son territoire.
Les soirées d'échange sur des sujets citoyens, c'est au champ commun.
Bonsoir à tous. Donc déjà, merci d'être venu ce soir pour ce nouveau blabla. Alors, un petit peu de changement par rapport à nos habitudes, parce que ce ne sera pas Henri Georges ce soir qui présentera le blabla. Il s'excuse, il avait des contraintes qui ont fait qu'il ne pouvait pas être là ce soir. Donc ce sera Benoît qui interviewera tout à l'heure donc notre invité témoin ce soir, qui est donc Hugues Guillemot. Donc Hugues qui est exploitant agricole aujourd'hui et qui a monté une SICA, l'esprit d'éthique, donc après la crise agricole, la crise du lait, une coopérative laitière, donc il vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Donc ce soir, on se retrouve pour un blabla sur le sujet quand les paysans se réapproprient la distribution du lait. Donc les blabla de l'ESS, c'est tous les derniers mercredis de chaque mois. Donc voilà, un espace de discussion et d'échange autour de différents sujets citoyens. Donc en partenariat avec Le Champ Commun qui nous accueille ce soir dans son estaminet. Localidée, donc, qui est une asso de développement local et d'accompagnement de porteurs de projets. Essentiel Plouermel, qui est le pôle de développement de l'économie sociale et solidaire sur le pays de Plouermel. Et donc Timbre FM, qui est la radio locale installée à Augan. Donc on peut voir Loïc derrière nous. Donc si aujourd'hui je parle dans un micro, c'est pas pour faire bien. C'est parce qu'en fait l'émission est enregistrée et sera après podcastée pour pouvoir l'écouter et aussi rediffuser sur la radio. Donc je vous demanderai de bien parler dans le micro et d'éteindre vos téléphones pour éviter que ça interfère. Alors dans un premier temps, on va pas trop chambouler les habitudes parce qu'on va quand même regarder une vidéo, mais pas qu'une seule, cette fois ce sera trois. Donc la première, c'est une vidéo sur la crise du lait et sur un film qui a été réalisé donc sur cette thématique-là. La deuxième, c'est quelques images de ce film-là que vous verrez. Et la troisième, donc, c'est un reportage de France Télévisions sur l'esprit d'éthique, la SICA qui a été créée. Et puis après, donc, Benoît et Hugues pourront blablater sur ce sujet-là.
Il est 13h.
Le journal.
Présenté par Marie-Laure Stézel, bonjour.
Bonjour, un millier de tracteurs à Bruxelles pour dénoncer la baisse du prix du lait et l'augmentation des coûts de production. Les agriculteurs en colère annoncent des actions spectaculaires cet après-midi. Nous serons parmi les manifestants et dans l'envers de l'info sur la première avec le secrétaire général de la Fédération Wallonne des agriculteurs.
We'll be right back. arrive pour 2015 à la disparition des quotas qui sont programmés.
Donc, c'est quoi les quotas?
Les quotas, c'était limiter l'offre par rapport à la demande. Mais depuis 2006, on a tout le temps augmenté les quotas. On les a augmentés en tout de 10%, petit à petit. Ce qui fait que l'offre dépasse la demande. Alors les prix sont effondrés. Donc, c'est pratiquement, on aimerait mieux tantôt qu'il n'y ait plus de quotas à ce moment-là. Parce que nos prix sont effondrés, autrement, on sait se réguler, s'autoréguler. Mais si on... Le problème de la libéralisation du commerce, c'est qu'on met, on se met vraiment entre les mains de financiers, donc de multinationales qui tirent les marrons du feu et qui nous donnent ce qu'ils veulent. On n'a aucun pouvoir sur nos prix. Mais la production, pour le moment, on est payé 26 cents du litre, donc départ ferme, et nos coûts de production tournent autour de 40 cents au litre. Donc, il n'y a pas photo, on est en train de décapitaliser à toute vitesse. Donc, ça veut dire que maintenant, en une année, on perd, selon l'exploitation, peut-être 30-40 000 euros. Donc, on ne sait plus rembourser les banques. Il y a des fermiers, il y a des suicides, énormément de suicides. Les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'on tient secret. En France, pour prendre un exemple, en 2010, il y a eu plus de 400 suicides. Et à l'époque, il y avait France Télécom, il y avait 37 suicides. C'était toute une histoire de harcèlement. 400 suicides, et en 2011, il y avait plus de 800 suicides. Et ça, silence radio, là, on ne dit rien. L'agriculteur est en train de mourir et de disparaître. Ça, c'est des drames. Et là, le politique peut intervenir pour faire, un partage de la valeur ajoutée, de la fourche à la fourchette. On nous demande la qualité de la fourche à la fourchette, mais qu'on ait aussi, le revenu de la fourche à la fourchette. Chacun sa part, chacun doit vivre, et il ne faut pas que des financiers soient en train d'exploiter, d'écrémer et de tuer la poule aux œufs d'or, parce que finalement, pour eux, c'est de l'or, et pour nous autres, c'est de la souffrance et c'est de la misère. Eh bien, il faut absolument casser ce cycle-là. Il faut revenir à un jeu démocratique.
Ce ne sont pas des crises, des manifestations occasionnelles comme ça, mais c'est comme un volcan. Je veux dire, il est toujours potentiellement en éruption. Et parfois ça pète, parfois ça se calme, mais le problème est potentiel. Moi, je connais les manifs depuis 1961. Comme mon père était portraitiste, m'avait appris à dessiner, je peignais dans les fermes des calicots pour les manifestants. J'ai connu 71 qui est dans le grand paysage Alexis Drouven. J'ai connu aussi beaucoup de manifs dans les années 80. Et pour ce film-ci, j'en ai vécu quand même pas mal. Hein. Deux sont dans le film et la plus sur le grand paysage. Donc c'est une à Verviers et une à Ciné. La fameuse manifestation des épandages du lait à Ciné. Il y a une douleur que tout un chacun, qu'il soit agriculteur ou non agriculteur, vit aujourd'hui. Pour moi, les agriculteurs sont aujourd'hui le symptôme d'une crise beaucoup plus large et qui touche l'ensemble de la société. C'est pour ça que, à mon avis, les gens viennent voir le film. Parce que là, ils voient des gens comme eux qui sont saisis dans un processus de survie, c'est ça. Un nerf vital a été touché, dont les agriculteurs aujourd'hui sont à la fois le symptôme et l'expression. Si on ouvre un homme, on trouve des paysages. Donc le paysage est un peu l'expression, ce qu'il y a dans la tête de celui qui y habite, qui y vit. Quoi. Donc ça m'a interpellé, non pas tant l'évolution ou la fracture dans le paysage, que à quoi cela renvoyait chez les gens qui y vivent. Quoi. Est-ce que la fracture est la même? Et parce qu'en trois générations, on est passé d'un système où l'agriculteur avait une maîtrise de son outil. Aujourd'hui, il est complètement dépendant de règles, etc. Et où il est une sorte de métayer de sa propre ferme, donc il est dans une situation inverse. Ben, là, le film le dit bien, hein, le passage d'une agriculture diversifiée jusque dans les années 60 et une agriculture de plus en plus monospécialisée dans le lait à partir des années 60. Ça le film, les personnages dans le film le disent bien, le décrivent bien, ça, ce passage-là. Il suffit de voir les deux films l'un après l'autre. J'ai tourné Le Grand Paysage d'Alexis Drouvin en 81. 30 ans après, Il appuie sur le grand paysage. Donc c'est vraiment une suite volontaire, d'où Il appuie sur le grand paysage. Et là, si on voit les paysages dans l'un et puis dans l'autre film, on voit bien les différences. Hein. Les différences, elles sont flagrantes. C'est là où il y avait des prairies qui s'étalaient à perte de vue. Aujourd'hui, si vous y allez et regardez la pluie dans le grand paysage, il y a des champs de maïs. Là où il y avait une ferme avec, je sais pas, une cinquantaine, une soixantaine de vaches, aujourd'hui ce sont des exploitations avec des citernes, avec des étables importantes et peut-être 100, 150 vaches.
Ce que j'ai admiré chez Jean-Jacques, premièrement, il est, comment est-ce que je veux dire, il aime bien rester dans son clocher. Il est du pays terre, il reste du pays terre. Donc il a vu l'évolution du pays terre et il reste là-dedans. Alors il a enquêté et il m'a époustouflé le temps, quand on filme d'habitude c'est quelques minutes, un peu à la sauvette dans un coin ou l'autre, le temps qu'il a pris pour aller enregistrer des gens à gauche, à droite. Quand j'ai vu ça, moi j'ai été étonné. C'est une mémoire vivante. Il a des documents qu'il a filmés. Donc il a fait le film en connaissance de cause. Il voulait comprendre ce qui se passait. Alors le film, Jean-Jacques Andriès, son père était peintre. Il travaille vraiment comme un artiste, puisque, je veux dire, les images sont époustouflantes. Il y a une émotion là-dedans, une émotion qu'on ne pouvait pas imaginer. Et surtout en 35 mm, ça dépasse le numérique.
Il y a des émotions qui sont exprimées dans un regard, dans le tremblement d'une joue, que le numérique ne m'aurait pas donné. Ça, c'est clair. Je veux dire qu'il y a... Je veux dire que le grain, la granulation dans le 35 ne s'opère pas, ne se fait pas de la même façon dans le numérique, c'est pas la même chose. Un pixel et un grain, c'est pas la même chose.
Jean-Jacques arrive à saisir les expressions, il remet, et les expressions continuent la parole. C'est un film, c'est un documentaire, mais qui vaut un film d'action. Je n'ai jamais vu un film comme ça. Maintenant, c'est peut-être parce que je suis dedans que j'ai été filmé, mais je ne crois pas. Ce que j'ai été étonné, c'est des gens qui ont été le voir une deuxième fois, une troisième fois, et qui ne sont pas dans l'agriculture. Et j'ai la même émotion la deuxième fois, la troisième fois. J'ai vu des journalistes qui avaient les larmes aux yeux, qui pleuraient, parce que la situation, c'est tellement vivant, comme c'est expliqué là-dedans.
Il n'y avait pas d'éclairage. Hein. Il n'y a pas une seule lampe dans le film. Parce qu'une lampe, un projecteur, ça implique un pied, ça implique des câbles, ça implique d'aller chercher le courant quelque part, donc on chamboule le lieu, l'ordre du lieu dans lequel on veut filmer. Donc une option de départ, c'est pas une seule lampe. Même dans les étables sombres, même dans les cuisines sombres, il n'y a pas une lampe. C'est un travail absolument remarquable du directeur photocadreur Yorgos Arvanitis. Donc pas une lampe dans le film. Ça, c'est absolument génial. Et puis une lampe aurait ébloui les animaux. Or, on voulait un rapport tout à fait, comment dirais-je, naturel avec les animaux. Si on filme une vache, elle nous voit, elle nous regarde, c'est très bien. Mais on ne voulait pas qu'elle soit éblouie, on ne voulait pas l'agresser.
Le film appuie l'action parce que la situation est revenue à peu près pareille. À l'époque, le lait était 18, 20 cents, maintenant il est 26 cents, mais les coûts ont explosé, les coûts de production. Donc l'énergie, les engrais, les aliments, ça a explosé. Donc finalement, la situation est peut-être encore pire qu'à ce moment-là. J'entends beaucoup de fermiers qui me disent c'est notre dernier espoir, c'est notre champ de cygne ici.
il a fallu tout recommencer de zéro. Quand ils ont refusé de signer à nouveau un contrat de 5 ans avec la grande coopérative qui collectait leur lait, Brigitte et Stéphane Le Guen ont fait un saut dans l'inconnu. C'était en 2012, ils se retrouvent sans débouché pour leurs produits. Ils ont dû s'endetter pour se payer un salaire. Mais aujourd'hui, ils produisent cette brique de lait appelée laitique. Elle est fabriquée et vendue en Bretagne. Et pour eux, c'est tout un symbole.
Ça a été un travail laborieux. Et aujourd'hui, le produit qui sort, c'est... Ouais, c'est émouvant, quoi.
J'ai vu les premières briques atterrir dans les caddies avec le sourire des clients, des magasins, des petits commerçants locaux de partout, à Loguivie, à Punivie, à Belle-Île. C'est vrai que c'est beaucoup d'émotions. Hein.
Eux-mêmes le disent, ils ne supportaient plus la logique de la coopérative. Investir, agrandir la ferme pour un salaire incertain, produire toujours plus de lait, sans limite.
La seule condition, ouais, c'était honorer nos volumes. Il fait du volume sans limite, bien sûr. Mais ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est une entreprise à taille humaine et des exploitations à taille humaine. Voilà ce qu'on veut.
Alors, ils s'allient avec 53 autres fermes dans un collectif d'éleveurs. En mettant leurs moyens en commun, ils tentent d'organiser la collecte et la vente de leur lait. Hervé Leroy est président de l'éthique et avec le recul, pas sûr qu'il recommencerait.
C'est pas un pari, c'est une folie totale. On n'avait pas de clients, pas de camions. Une citerne sans camion. Voilà, on n'avait pas de chauffeur non plus.
Après 5 ans de galère, voici leur fierté. Une toute nouvelle laiterie construite il y a moins de 6 mois. Aujourd'hui, elle produit 50 000 litres de lait par jour et emploie 14 salariés, bientôt 26. Depuis 3 semaines, le lait mis en brique ici atterrit dans des centaines de supermarchés en Bretagne. Les éleveurs le savent, ils n'arriveront à vivre de leur lait que si les consommateurs suivent. Et manifestement, le produit plaît déjà.
Les producteurs de lait ont du mal à s'en sortir là, en ce moment. Et ben, c'est bien de trouver des filières directes comme ça. Si ça leur apporte un peu plus, ben, c'est pas plus mal pour eux. Mmh. Et si nous, c'est moins cher, c'est encore mieux.
Vérification sur l'étiquette. 67 centimes le litre, c'est le moins cher de ce supermarché. Leur secret, moins d'intermédiaires, trop gourmands sur les marges.
Vous arrivez quand même à rémunérer vos éleveurs ?
On va y arriver. Pour l'instant, on ne fait que démarrer. Là, normalement, on doit rémunérer à un prix correct et surtout lisible sur le temps.
Le but du collectif, rémunérer les éleveurs mieux que les grandes marques. Dans quelques mois, en plus du lait, leur usine devrait fabriquer du fromage frais et des desserts lactés. Pour eux, ce sera un pas de plus vers l'indépendance.
Voilà pour les vidéos. C'était pas évident de trouver des vidéos sur le sujet, en fait. Enfin, pas évident. C'était pas évident de choisir parce qu'il y en a plein. Vous pourrez regarder sur Internet, il y en a beaucoup, beaucoup de vidéos amateurs, de personnes qui ont filmé un peu. Voilà, c'était plutôt en 2009, donc voilà, un peu voilà, de façon amateur avec ce qu'il y avait à l'époque comme appareil. Mais il y a plein de vidéos de gens du coin, de paysans du coin aussi, qui sont super sympas à regarder, donc n'hésitez pas à aller en voir d'autres. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Benoît et Hugues.
Les blablas, c'est d'abord un témoin.
Alors bonsoir. Alors Hugues, peut-être au vu de ce qu'on a vu dans les films, avant de parler de l'esprit d'éthique, peut-être parler de toi, de ton parcours, de comment ce qui s'est passé pour toi avant la crise du lait, comment tu as vécu la crise et comment tu arrives aussi dans le groupe de l'esprit d'éthique. Parler de tout ça.
Ben, déjà, donc, installé à Ruffiac en 2003, bon, ben, après une école, un BPREA qui nous pousse justement à aller vers... l'agrandissement, après 6 ans de boulot, on va dire à fond, quoi, sans lever la tête, ouais, je rencontre diverses personnes, Pascal Massol en fait, le futur ingénieur en laiterie, excusez-moi, j'ai un peu d'émotion après la vidéo, donc faut que ça passe. Donc du coup, en 2009, au printemps 2009, on a une réunion avec des Aveyronnais qui arrivent par là nous dire, mais nous on a acheté notre lait là, et tout de suite la laiterie elle a dit, tu t'arrêtes ça là et tu fermes ta bouche. Et ah pardon. Et donc, du coup, tout de suite, Sodial le rappelle. Non, tu arrêtes de jeter ton lait, là. On te met 20 euros de plus. Bah, il se demande pas, en fait. Il appelle tout le département. Enfin, dans l'Aveyron, il y a moins de paysans qu'en Bretagne. Moins de laitiers par département. Et il arrive à avoir 200 personnes, je crois, sur 4 départements. Et du coup, bah, ils entament une grève du lait et ça fait que tout le département a récupéré 20 euros tonnes. Du coup, bah, il se dit, bah, on va monter en Bretagne, on va voir si ça marche pareil. Et donc de là, enfin, après, avec appui de chiffres et tout, est-ce que ça serait pas bien de faire une grève du lait de quelques jours, puisque plus on... Enfin, pour monter à 400 euros tonnes, on pouvait investir un mois de grève du lait, en fait. Il y avait à tableau, il y avait toute une réunion pour présenter ça. Donc moi, je suis rentré de la réunion, j'étais époustouflé. Et juste après, il y a Entremont qui nous a payé 20 centimes. Et là, on a vu comment le syndicat réagissait. Il réagissait comme d'habitude, faisant de la merde, quoi. Et donc, suite à ça, rappelle-moi le début de la question.
Il marche ? Voilà, comment est-ce que tu arrives là et comment après de la grève du lait on arrive au groupe de l'esprit d'éthique quand tout ça se met en place entre temps.
Bah, la grève du lait donc du coup est venue d'Entremont là qui a payé 20 centimes pendant 3 mois et nous on était déjà en fait en relation avec donc du coup on a créé une association, ça s'appelle l'association des producteurs de lait indépendants et on s'est réunis, on a capté du monde, c'était des réunions en fait où on présentait en fait, plus on va tenir à faire une grève, pas forcément 100% des laitiers, hein, il en fallait 30%, voire moins. Et donc, on a mis 6 mois à faire de l'affichage, des bâches sur les vaches, tout moyen de communication possible pour dire il faut faire une grève du lait. Mais ben, ils ont flippé pendant 6 mois, quoi, parce qu'ils ne savaient pas comment quand ça allait arriver. On avait les RG sur le dos. Enfin, d'ailleurs, des fois, ils nous arrangeaient. Ils nous disaient que les salles étaient trop petites, notamment à Saint-Hilaire-du-Harcouët et à Saint-Malgrand. Il y a eu 1500 personnes à Saint-Malgrand et autant à Saint-Hilaire-du-Harcouët. C'était les RG qui disaient la salle est trop petite. Et donc, ça captait du monde. Mais quand est-ce qu'elle est arrivée, cette grève du lait? Mais sauf qu'il y avait... C'était pas une grève française, en fait, c'était une grève européenne. Il fallait absolument que ce soit toute l'Europe, puisque de toute façon, c'était déjà un marché européen. Donc du coup, même moi, je savais pas la date, on faisait des réunions, mais quand est-ce que ça va arriver? Au bout de 6 mois, quand même, on attendait. Mais il suffisait de regarder la courbe de production à l'année. En fait, la chute de production de lait est à peu près à l'été, donc forcément la grève allait arriver juste là où il y avait le pic le plus bas, enfin pas le pic, mais la chute de production. Et en plein milieu du SPAS, en plus, pour la partie française. Donc elle a bien eu lieu, les prix avaient déjà remonté avant qu'elle ait lieu. Et il commençait déjà à remonter au niveau de l'Europe. Et au SPAS, le ministre Bruno Le Maire, qui est encore ministre de l'économie aussi, il nous dit comme ça, mais il faut vous montrer. Parce que la grève était silencieuse. On ouvrait les vannes, on ouvrait les tanks à la ferme. Parce que nous, on n'était pas pour des actions comme les syndicats, on n'était pas pour ces actions-là, on était plutôt... de toute façon, on était apolitique et asyndical, mais en plus, on ne venait pas pour aller dans la violence, quoi. Et donc, l'épandage de lait, c'était pas facile, quoi, la veille au soir, parce que nous, on a organisé une collecte pour aller épandre à Pluvigny, il y en avait partout en Bretagne, il y en avait partout là où il y avait un peu de paysans motivés. Et donc, ça s'est vu, ça a fait un impact. On a poussé ce truc-là à l'Europe, parce qu'on était force de proposition. On voulait monter un office du lait européen. Et là, on a vu le mur que c'était l'Europe, parce que on a beau avoir des gros tracteurs, et c'est pas évident de tenir dans le temps contre les institutions européennes. Bruno Le Maire, le ministre, nous fait une loi de modernisation agricole qui était tout simplement une loi d'expropriation des paysans. Donc on a continué, on a carrément participé à des réunions de chambres d'agriculture qui promouvent, parce que s'il y a une co-gestion, hein, Yannick Ogor en parle mieux que moi, les chambres d'agriculture préparaient les paysans à cette nouvelle loi. Nous, on arrivait dans les réunions pour leur dire, mais vous allez vous faire avoir. Et puis après, comment, voyant que du coup, bah, pour la partie la plus proche, de chez nous, c'était Entremont qui allait se faire racheter par Sodial, il fallait qu'on se bouge, nous, pour se libérer tout seul. Donc l'idée de la SICA est venue juste là, quoi. Donc à peu près entre 2010 et 2011.
Cinquantaine, parce que entre nous il y avait quelques milliers de producteurs qui ont signé normalement avec Sodial. Vous vous retrouvez un niveau de combien à...
Bah, c'était ouvert à tous les producteurs Entremont à la base. C'était ça l'origine. C'était que pour ceux qui voulaient éviter de rentrer dans cette COP là qui est plus une COP. Et de 4000, enfin sur 4000, il y en avait à peu près aux premières réunions 125, 150 à peu près. Et ça n'a pas été simple parce que c'était un engagement total, enfin comme il a été dit dans le reportage. En plus, sans visibilité, c'était... Mais bon, il y a eu tellement de choses pendant la grève du lait, pendant tout ça. On a fait des analyses de lait, on a vu avec huissier, on a fait des analyses de briques de lait. C'est plus du lait, quoi. Il y a plus de matière grasse, il n'y a plus de protéines alors que c'est interdit. On a envoyé ça à la DGCCRF, les fraudes, là. aucun résultat. Voilà, quand tu vois tout ça, tu peux plus retourner traire tes vaches, sachant que on maltraite ton produit, sachant que si, enfin, on parle de que le lait c'est pas bon pour la santé ou qu'il y a des allergies, mais si le lait qui est dans la brique il est déjà maltraité, nous on fait du bon lait. Donc du coup, j'ai perdu le fil, j'ai digressé là.
Le groupe qui se réunit là, la centaine, alors, comment, c'est quoi leur idée au départ et comment le travail évolue vers ce qui est où on en est aujourd'hui, comment c'est né tout ça?
L'idée, je pense, en tout cas, comme nous on est parti, c'était comment pas suivre une coopérative, parce que bon, il y a un conseil d'administration, ils sont tous payés. Qui écoute un conseil de direction? Qu'ils soient disons professionnels, on a vu le résultat. Moi, j'avais déjà vu le fait avec mes parents. Enfin, ils avaient déjà viré une COP, comme Entremont, il y a déjà des années. Et puis bon, là, Sodial, c'était un contrat. C'est une coopérative qui aujourd'hui représente du coup 14 000 laitiers, mais avec une holding en Hollande ou aux Pays-Bas. Donc, ils écrasent les charges sur les paysans et tous les bénéfices vont en Hollande, donc défiscalisés. Donc on a essayé de prévenir ça. Donc 120-150, il y en a une centaine. Bon, après, c'est le problème, c'est qu'il y a toujours des individus qui prennent un peu la grosse tête. Donc il y en a 25 qui sont partis en suivant un autre, une personne qui voulait dans le coin de Carhaix. Bon, je plains ces gens-là aujourd'hui parce que beaucoup ne font plus de lait, en fait. Ils n'ont pas été repris, du coup, parce que quand tu sors du système, tu ne peux pas re-rentrer facilement.
Pour expliquer aux non-avertis, depuis cette nouvelle loi, chaque producteur doit avoir un contrat avec une laiterie qui dure au moins 5 ans et s'engage à livrer le lait à cette laiterie pendant 5 ans. Et donc, il est pieds et mains liés. Mais s'il dit « moi, je ne veux pas signer », son lait, il se le garde.
C'était le travail de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie aujourd'hui. On voit quelle sauce on va être mangé. Donc nous, on avait essayé de prévenir les paysans pour ça, et parce que c'est un contrat de 5 ans pour le lait, mais si c'est une coopérative, c'est aussi tous les produits. Il y a des coopératives vers le centre, là, ils ont aussi le tracteur. Donc il faut acheter aussi le tracteur avec la coopérative. Ça veut dire jusqu'où ça va. Donc ils sont vraiment en train de mettre... Enfin, c'était le projet de la loi de la LMA, là, c'était de mettre des menottes aux paysans, quoi. Donc du coup, sans paysans, on est descendu à... Ouais, c'est descendu petit à petit, il y a eu des retraites entre-temps. Donc on n'est plus que 54 aujourd'hui à avoir démarré le projet, quoi.
Et donc le projet au démarrage, c'était quoi l'idée?
C'était comment de l'ultimatum de Sodial. Sodial voulait, au 1er juillet 2011, donc les signatures. On avait 18 mois pour répondre, et donc on avait 18 mois pour monter notre SICA, pour contrecarrer, enfin, essayer de faire autre chose.
Donc 1er janvier 2013, vous avez votre lait chez la cinquantaine, vous avez votre lait chez vous, et commencez à vous débrouiller à 50 à vendre votre lait.
Juillet 2012. Juillet 1er juillet 2012, on avait foutu les tankas entre Mont-Sodial dehors, et on avait acheté les notes, plus les camions.
Et donc, dès le départ, l'idée, c'était de juste vendre vous-même votre lait à des industriels, ou c'était directement de transformer votre lait pour le vendre directement au consommateur?
Transformer. Enfin, le but, c'était de créer une laiterie à part entière pour faire du bon lait en brique, quoi.
D'accord. Et donc, comment s'est passé ces quelques années de montage comment en interne, comment ça s'est organisé en interne au niveau des 50 producteurs pour réfléchir, avancer sur le projet?
Ça n'a pas été simple parce que toutes les banques sont affiliées à l'agriculture. On ne peut pas aller dans des banques hors agricoles. Il y a une banque industrielle qui nous a suivis, donc d'abord, pour démarrer. Donc les camions étaient en leasing en partie. Enfin voilà, on s'est débrouillé comme on pouvait. On a eu le bâtiment quand même grâce à une personne qui était un peu dans notre esprit. 3500 m², c'est le bâtiment qu'on a vu de loin dans le reportage, et donc c'est grâce à des rencontres, des anecdotes, il y en a pas mal sur 6 ans, mais le tout, c'était de faire un plan de financement, quoi, parce que c'était quand même une laiterie pour à peu près 28 millions de litres de lait, donc c'était pas un petit projet, et dans le but de rester, de faire un bon produit, et surtout une distribution, une collecte locale et une distribution locale, quoi.
Et donc, au niveau du montage du projet, quels ont été les appuis, quels ont été les alliés, quels ont été aussi les freins à l'avancée du projet ? Est-ce qu'à un moment donné, comment il s'est mis en place ? Est-ce vous avez toujours su qu'il allait y réussir ? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des moments de doute et,
Au niveau de la grande distribution, parce que le but, c'était de, quand je dis la distribution en local, c'était quand même de distribuer au magasin, hein, parce que les gens ne vont pas arrêter d'aller au magasin tout de suite. Et donc, c'était de... déjà, on les a rassemblés, et les 4-5 grands qui existent n'ont pas eu de soucis à se mettre à la table, et même ensemble. Donc, je ne vais pas leur faire de pub là, mais bon, je pourrais, parce qu'ils sont tous venus. Et donc, déjà, ça a surpris les banquiers. Alors, les banquiers, on peut comprendre qu'ils nous aient pris pour des uluberlus à l'époque, mais bon, le projet était viable, il n'y a pas de souci, vu quand Lactalis arrive à faire 1 million en 1 an, je pense qu'il y avait de la place, quoi. Et donc, on pouvait, nous aussi, faire quelque chose. Donc, le plus gros soutien, ça a été finalement les enseignes de distribution. Les banques, il y en a eu une ou deux, quoi, mais c'était pas évident, parce que moi, on pouvait pas faire un montage avec une seule banque, quoi. Il fallait 3 banques minimum, et après, bien sûr, en comptant les subventions européennes, quoi. Donc là, pour le coup, on avait prévu dans la SICA un peu d'apport du consommateur, parce qu'il y avait une place aussi pour le consommateur. Bon, il y avait quelques mécènes, mais bon, quand on nous ramène le président de la FNSEA comme conseiller économique, ça fait des anecdotes assez intéressantes, quoi. Donc non, c'était pas possible de... Donc on s'est débrouillé tout seul, principalement.
Et ça, est-ce qu'il y a eu des moments de doute où ça a toujours bien tourné ? Est-ce qu'il y a des moments où le projet il se remettait à dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on arrête ? Ou ça a toujours été plutôt on avance ?
Sur 6 ans, oui, il peut y avoir, il y a eu des moments de doute. Ça a été, en fait, dans les années qui ont suivi, quand même, 2012, à partir de 2012, le prix était quand même correct. Donc, on arrivait à vendre notre lait à peu près correct sur le marché. Donc, 2012, 2014, ça allait. Après, 2015, 2016, c'est là que ça commençait à être chaud sur le marché. Et nous, il était temps que le produit, enfin, que la laiterie se crée, quoi, sauf que le projet de financement, ça a été une galère pendant quelques années, quoi. Avoir les 3 banques qui viennent sur le truc, donc plus on avançait avec un bilan, plus on avait de... on montait pas de blanche, quoi, mais il fallait au moins 1, 2, 3 bilans, il a fallu 3 bilans, du coup, de notre SICA, pour pouvoir avoir une réelle écoute des banques et de pouvoir monter un projet. Tout en comptant un appui financier des subventions européennes, quoi. Subventions régionales, subventions européennes. Pour l'industrie, hein, c'est pas pour le paysan.
Donc si on parle donc de subventions régionales, c'est-à-dire que au niveau des élus, qu'est-ce qu'ils avaient leur rôle ? Parce que si c'est la région, c'est que la région a accepté de vous donner des aides. Donc est-ce que les élus ont joué un rôle ?
Non. Le rapport avec les élus, c'est celui que vous avez vu dans le reportage, c'est Hervé Leroy et... Il nous raconte après les anecdotes en réunion, mais c'est pas évident. Enfin, l'administration, puisqu'ils ont comme principal interlocuteur la FNSEA, donc, on y allait, mais sans compter dessus, quoi, en fait.
Mais ils ont quand même fini. Ils n'ont pas réussi à trouver de faille pour ne pas dire non, désolé, voilà. On vous donne pas de subvention.
Au bout d'un moment, quand le projet est défini et viable, ils peuvent pas aller contre, quoi. Donc une fois que ça a été bouclé, mais c'est pas fini, hein, on attend les subventions qui sont bloquées pour l'instant. L'outil est monté, mais les subventions sont bloquées. C'est encore un des bâtons dans les roues qu'on prend.
Vous écoutez Timbre FM sur le 106.6. C'est l'heure du feuilleton de l'économie locale.
Qu'est-ce que l'économie locale ?
L'économie locale, ça représente l'énergie qu'on peut trouver sur un territoire.
Qu'est-ce que tu entends par énergie ?
Des sujets qui concernent, par exemple, pour le pays de Plouermel, la ruralité dans son sens large, puisque dans un milieu rural, et plus concrètement, sur l'accès... au foncier pour les paysans, ça va être la valorisation du bois au niveau local, ça va être les questions d'habitat participatif et du vieillissement.
Et toi, tu fais quoi dans l'économie locale ?
Je travaille pour la dynamique essentielle Pleu-Armel, qui s'est lancée en 2013, et Et j'essaye justement de mettre en valeur cette petite économie locale qui s'active tous les jours pour son territoire.
Vivement mercredi !
C'est blabla, on me gagne !